10 minutes chronique.
Commençons par un homme qui n'a pas de nom, sauf celui qu'on lui donne, Mr. Blank, ce qui signifie blanc ou vide ou rien. Il est assis sur le bord d'un lit dans une pièce sans caractère, où chaque objet porte une petite étiquette qui le désigne. Bureau, mur, lampe. Parfois, en suivant cet homme au cours de sa journée, nous voyons les choses de son point de vue, mais le plus souvent, nous sommes à l'extérieur et nous observons. En effet, le récit se présente souvent comme un rapport, bien que l'on ne sache pas très bien qui rend compte à qui et dans quel but. Nous ne savons jamais si la pièce est une cellule de prison, une salle d'hôpital ou simplement une pièce de sa maison. Parfois, il semble que ce soit l'étroit. La porte est peut-être fermée à clé, mais il est parfois sous-entendu que l'homme est libre de sortir dans un parc voisin. Qu'il soit libre ou non, il reste là, là où il est. C'est un roman de Paul Auster. Son titre, Dans le scriptorium. De temps en temps, l'homme reçoit des visiteurs. Sur le bureau se trouvent des photographies. La plupart du temps, celles d'inconnus qui lui rendent visite dans la journée. Sur le bureau se trouve également le début d'une histoire, une histoire d'emprisonnement et de trahison qui se révèle inachevée. Roman étourdissant, presque plat pourtant, bref récit d'une reconstruction, de la mémoire jamais aboutie. Le vieil homme est assis au bord du lit étroit. Les mains à plat sur ses genoux, la tête basse, il contemple le plancher. Il ignore qu'un appareil photographique est installé dans le plafond juste au-dessus de lui. L'obturateur se déclenche sans bruit, une fois par seconde, produisant 86 400 clichés à chaque révolution de la Terre. Même s'il se savait surveillé, cela ne ferait aucune différence. Son esprit est ailleurs, à la dérive, parmi les créatures qui hantent son imagination, tandis qu'il cherche une réponse à la question qui l'obsède. Qui est-il? Que fait-il là? Quand est-il arrivé là? Et jusqu'à quand y restera-t-il? Avec un peu de chance, le temps nous dira tout. Pour l'instant, notre seule tâche consiste à examiner les photographies aussi attentivement que possible en nous gardant d'en tirer les conclusions prématurées. Il y a dans la chambre un certain nombre d'objets et sur chacun d'eux, on a fixé une bandelette de papier blanc où figure un mot écrit en capitale. Sur la table de chevet, par exemple, le mot est « table ». Sur la lampe, le mot est « lampe ». Jusque sur le mur, qui n'est pas un objet au sens strict, il y a un bout de papier qui dit « mur ». Le vieil homme relève un instant les yeux, il voit le mur, il voit le bout de papier fixé au mur et il prononce à voix basse le mot « mur ». Ce que l'on ne peut savoir, à ce stade, c'est s'il lit le mot écrit sur le bout de papier ou s'il nomme simplement le mur. Il se pourrait qu'il ne sache plus lire, mais qu'il reconnaisse encore les choses pour ce qu'elles sont et soit encore capable de les appeler par leur nom ou, à l'inverse, qu'il ait perdu la capacité de reconnaître les choses pour ce qu'elles sont, mais qu'il sache encore lire. Il est vêtu d'un pyjama de coton à rayures bleues et jaunes et a les pieds enfilés dans une paire de pantoufles de cuir noir. Il ne sait pas très bien où il est. Dans la chambre, oui, mais dans quel bâtiment se trouve la chambre? Une maison, un hôpital, une prison? Il n'arrive pas à se rappeler depuis combien de temps il est là, ni la nature des circonstances qui ont précipité sa relégation en ce lieu. Peut-être a-t-il toujours été ici? Peut-être a-t-il vécu ici depuis le jour de sa naissance? Ce qu'il sait, c'est que son cœur est empli d'un implacable sentiment de culpabilité. En même temps, il ne peut se défendre de l'impression qu'il est victime d'une injustice terrible. Il y a une fenêtre dans la chambre, mais le store est baissé, et pour autant qu'il s'en souvienne, il n'a pas encore regardé dehors. Même chose en ce qui concerne la porte et sa poignée de porcelaine blanche. Est-il enfermé? Ou est-il libre d'aller et venir à sa guise? Il doit encore étudier cette question. car ainsi qu'on l'a dit ci-dessus au premier paragraphe, il a l'esprit ailleurs, à la dérive dans un passé où il erre parmi les êtres fantomatiques qui lui encombrent la tête, et il s'efforce de répondre à la question qui l'obsède. Les photographies ne mentent pas, mais elles ne racontent pas non plus toute l'histoire. Elles ne font que rendre compte du temps qui passe, des signes extérieurs. L'âge du vieil homme, par exemple, est difficile à évaluer d'après les images en noir et blanc un peu floues. La seule chose qu'on peut établir avec quelque certitude, c'est qu'il n'est pas jeune. Mais le mot « vieux » est un terme élastique, utilisable pour décrire une personne de n'importe quel âge, entre 60 et 100 ans. Nous allons par conséquent laisser tomber l'expression « vieil homme » et désigner dorénavant le personnage dans la chambre du nom de Mr. Blank. Jusqu'à nouvel ordre, un prénom ne sera pas nécessaire. Mr. Blank se lève enfin du lit, il s'immobilise un instant pour assurer son équilibre, et puis il se dirige à pas traînant vers le bureau à l'autre bout de la chambre. Il se sent fatigué comme s'il venait de s'éveiller d'une nuit agitée et trop courte, et le frottement de ses pantoufles sur le plancher de bois nu le fait penser à du papier d'Emery. Très loin, au-delà de la chambre, au-delà du bâtiment dans lequel se trouve la chambre, il entend vaguement un cri d'oiseau, peut-être un corbeau, peut-être une mouette. Il ne saurait le dire. Mr. Blank s'installe avec lenteur dans le siège placé devant le bureau. C'est un siège d'un confort extrême, constate-t-il, garni d'un souple cuir brun et donné de larges accoudoirs, où peuvent reposer ses coudes et ses avant-bras, sans parler du mécanisme à ressort invisible qui lui permet de se balancer à sa guise d'avant en arrière, ce qu'il commence d'ailleurs à faire dès l'instant où il est assis. Un tel balancement a sur lui un effet apaisant, et tandis qu'il continue à se laisser aller à ses agréables oscillations, Mr. Blank se souvient du cheval à bascule qui se trouvait dans sa chambre de petit garçon. Et il se met alors à revivre certains des voyages imaginaires qu'il entreprenait sur ce cheval, qui s'appelait Whitey, et qui, dans l'esprit du jeune Mr. Blank, n'était pas un objet en bois orné de peinture blanche, mais un être vivant, un vrai cheval. Après cette brève excursion vers sa petite enfance, l'angoisse reprend Mr. Blank à la gorge. Il dit tout haut d'une voix lasse « Je ne peux pas autoriser ceci ». Il se penche en avant pour examiner les piles de papier et de photographies rangées avec soin sur le plateau en acajou du bureau. Il saisit d'abord les images, 3 douzaines de portraits en noir et blanc, au format 20x25, d'hommes et de femmes, d'âges et de races divers. Sur la première photo de la pile, on voit une jeune femme d'une 20aine d'années. Ses cheveux noirs sont coupés courts et les yeux qu'elle tourne vers l'objectif ont une expression intense et troublée. Elle est debout en plein air dans une ville italienne ou française sans doute, car il se trouve qu'on voit derrière elle une église médiévale, et du fait qu'elle porte une écharpe et un manteau de laine, on peut déduire à coup sûr que la photo a été prise en hiver. Mr. Blank la regarde dans les yeux et s'efforce de se rappeler qui elle est. Après une 20aine de secondes, il s'entend murmurer un simple mot. Anna. Il sent déferler en lui un irrésistible amour. Il se demande si Anna n'est pas une femme avec laquelle il a jadis été marié, ou s'il ne se pourrait pas qu'il soit en train de regarder une photo de sa propre fille. Un instant après qu'il a pensé cela, une nouvelle vague de remords l'assaille, et il se rend compte qu'Anna est morte. Pire encore, il soupçonne qu'il est responsable de sa mort. Il se pourrait même, se dit-il, que ce soit lui qui l'ait tué. Mr. Blank pousse un gémissement de douleur. Regarder ces images, c'est trop pour lui. Il les pousse donc à l'écart et porte son attention vers les papiers. Il y en a 4 piles en tout, hautes d'une 15aine de centimètres chacune. Sans raison particulière dont il ait conscience, il saisit la page du dessus de la pile, la plus à gauche. Les mots écrits à la main en lettres capitales analogues à celles qu'on peut voir sur les languettes de papier blanc composent le texte suivant. Vue des confins de l'espace, la Terre n'est pas plus grosse qu'un grain de poussière. Souviens-t-on la prochaine fois que tu écriras le mot « humanité ». De l'expression dégoûtée qui lui envahit le visage, tandis qu'il balait ses phrases du regard, nous pouvons conclure raisonnablement que Mr. Blank n'a pas perdu la capacité de lire. Quant à l'identité de l'auteur de ces lignes, c'est une question qui demeure ouverte. Mr. Blank tend la main vers la page suivante sur la pile et s'aperçoit qu'il s'agit d'une espèce de manuscrit dactylographié. Le premier paragraphe commence ainsi. Au moment où je commençais à raconter mon histoire, ils me jetèrent au sol et me frappèrent la tête à coups de pied. Lorsque, m'étant remis debout, je recommençai à parler, l'un d'eux me cogna en travers de la bouche et puis un autre m'asséna un coup de poing à l'estomac. Je tombai, je parvins à me relever, mais à l'instant où j'allais commencer mon récit, pour la troisième fois, le colonel me jeta contre le mur et je perdis connaissance. Retrouvons-nous le 17 octobre pour une nouvelle édition de 10 minutes chroniques. À bientôt.